Vous allez écouter dans quelques instants une interview qui a été réalisée par Henri Roussel de Radio Plus en compagnie de Benoît Leclerc, auteur du livre Le Journaliste et le Coureur, ainsi que par téléphone Sophie Lamy de la maison d'édition J'ai d'encre.
Allez, bonjour à tous, bonjour Lucas, bonjour Monsieur Leclerc, et je... Voilà, merci. Alors, Monsieur Leclerc, à vous, disons, pour parler de ce livre, Le Journaliste et le Coureur, sachant que vous étiez à la 4e édition et que vous êtes, disons, passionné d'histoire.
Oui, alors, l'histoire est une chose qui me passionne. Voilà, donc il n'y a pas que l'histoire. Souvent, quand on parle d'histoire, les gens pensent aux guerres, ils pensent à tout ça. L'histoire, c'est général, elle est culturelle, elle est dans le progrès. Si vous... Quand on imagine nos grands-mères qu'elles ont pu connaître en l'espace de quelques années, en l'espace de quelques décennies, c'est inouï. Donc j'aime bien dans mes livres, non seulement partir dans un contexte historique, mais en plus l'accompagner de tout ce qui est du quotidien. Voilà. Donc dans Le Journaliste et le Coureur, le dernier livre, bon, on va à la fois suivre cette épreuve incroyable, inouïe, cette imagination folle qu'a lancé Henri Desgranges, mais avec des personnages certes attachants, mais qui vont suivre également les évolutions du progrès, l'évolution de l'aviation. Hein. Au tout départ, c'est un bond qui fait 20 mètres. Hein. Tout le monde se précipite à Paris pour aller voir un bond de 20 mètres en se disant, voilà, c'est fabuleux, quand d'autres en sont moins quand même convaincus. Mmh. En l'espace de quelques années, l'évolution va être folle, que ce soit j'irais d'un point de vue culturel, d'un point de vue musical, d'un point de vue l'évolution va être folle. Voilà. Mmh. Donc j'aime accompagner tout ça dans un contexte, j'aime plonger la personne dans une période.
Alors vous étiez responsable d'une maison d'édition, oui. Également, comment ça s'est fait?
Moi j'ai travaillé à l'époque sur Paris, voilà, j'ai démarré quand même un simple commercial, j'ai franchi les différents paliers pour être par la suite chef d'équipe, directeur d'agence, directeur régional, donc qui travaillait à l'époque avec les éditions Bordas, un petit peu aussi les boutiques France Loisir, voilà, donc ce qui m'a permis d'avoir une excellente... expérience à la fois un petit peu dans l'édition, puis aussi dans le commercial, voilà. Je suis maintenant, au bout d'un moment, estimant, n'apprenant plus rien. Quand on n'apprend plus, c'est qu'on devient mauvais, ou qu'on risque de le devenir. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, on a plusieurs vies en une vie, puis je suis revenu dans la région d'origine dont je suis, hein, puisque je suis d'origine des Hauts-de-France. Je suis né à Roubaix, j'ai vécu, à Marcq-en-Barœul à l'époque. Actuellement, je suis dans le Pas-de-Calais, hein, et j'ai décidé de me lancer dans la restauration. J'ai d'abord pris un hôtel-restaurant à Montreuil-sur-Mer, hein, qui est une ville fabuleuse et historique,
ouais, avec ses remparts.
Ouais. Ok, et puis chaque année, son spectacle, son lumière sur les Misérables.
Ouais, hein.
Et puis j'ai pris un hôtel-restaurant, puis après j'ai changé pour prendre rien qu'un restaurant à Berck-sur-Mer. Voilà, donc avec une station qui est assez vivante.
C'était la cuisine, c'était de vos hobbies alors pour prendre la restauration. Vous étiez passionné de cuisine pour apprendre un restaurant.
Bah en fait, je me suis dit, je suis pas plus bête qu'un autre.
Ah.
Mais en final, faut le dire quand même, on est plus bête qu'un autre quand on démarre.
Ouais.
Donc un peu à la fois, on se forge. Et puis bon, maintenant ça va faire une quinzaine d'années que je suis dans la restauration.
Alors justement, on va parler du Tour de France, le journaliste et le coureur. Bon, on sait pourquoi le journaliste, et on va parler de M. Henri Desgranges, qui est responsable de l'autovélo, hein, en région parisienne, et qui a créé ce Tour de France. Parlez-vous un peu d'Henri Desgranges.
En fait, M. Desgranges, au départ, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il n'est pas du tout dans le vélo. Absolument pas. Hein, donc lui, il est né à Paris, dans le 10e arrondissement exactement. Hein, donc une famille, un frère jumeau hein, qui s'appelle Georges Léon. Son père est architecte, il tient une entreprise de maçonnerie. Okay, donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le domaine du vélo. Puis Henri Desgranges, lui, obtient son baccalauréat avec un an d'avance. Il est titulaire d'une licence de droit à 20 ans. Okay. Et puis, il ne souhaite pas reprendre l'entreprise familiale. Il commence sa vie professionnelle en tant que clerc de notaire. Puis, il va même exercer le métier d'avocat à la Cour d'appel de Paris. Voyez. Mais il découvre pour la prochaine fois la pratique du cyclisme à l'occasion de la première édition de la course Bordeaux-Paris, hein, qui a lieu en 1891. Et là, alors lui, il s'emballe directement. Et il décide de renoncer à son métier d'avocat pour se consacrer directement au sport. Donc là, ce monsieur Desgranges, il va adhérer à une association vélocipède amateur, hein, qui s'appelle le AVA. Il s'entraîne tous les jours au Vélodrome de l'Est, hein, où il est abonné. Donc je crois que le Vélodrome de l'Est doit être à Charenton, je pense, dans... Allez, bah, 94 aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas le 91, 92, 93. Hein, où là, il y a le premier Grand Prix de Paris qui s'y tient. Voilà, donc là, il va rencontrer un monsieur qui s'appelle Victor Godet, hein, qu'on verra également dans... Mmh. Qui travaillera avec lui, puisqu'il sera trésorier du journal qu'il créera par la suite.
Et c'est son fils qui sera trésorier.
Et son fils, par la suite, Jacques Godet, voilà, prendra par la suite de M. Desgranges après son décès. Et donc, Jacques Godet, à l'époque, là-bas, sur ce vélocipède, bah, il est chargé de contrôler les abonnements. Voilà. Hein. Alors, il va fréquenter, après, le vélodrome Buffalo, hein, qui est inauguré en 1893, pas loin de la Porte Maillot. Alors pourquoi il s'appelle le Vélodrome Buffalo? Parce qu'à l'époque, il y avait l'exposition universelle de Paris. Et puis là, il y avait un spectacle Buffalo Bill qu'on présentait. Bon, qu'on a gardé le nom du Vélodrome Buffalo. Hein, donc, alors un petit peu à la fois, ce monsieur Desgranges, ben, avec assiduité, il va commencer à atteindre un niveau assez exceptionnel. Voilà. Hein, donc d'abord, en tant qu'amateur, hein, donc, il va établir le premier record de l'heure, sans entraîneur à l'époque, hein, qui est homologué. Bon, à l'époque, il va faire 35,5 km/h. Okay. Bon, record battu 8 mois plus tard par un certain Jules Dubois. Et après, il va battre des records sans arrêt, records des 50 et 100 km, des records sans arrêt. Alors, les records, ok, mais à l'époque, on préfère quand même les records avec des entraîneurs. Voilà, hein, ils sont quand même beaucoup plus prisés, mais il n'y a pas accès pour l'instant. Donc, il va continuer à battre des records, le record des 100 miles, pardon. Il va également prendre un record en tricycle. Hein, bon, à l'époque, c'est une discipline qui tombe déjà en désuétude, mais il bat encore ce record. Et puis, à la fin de 1893, bah, il quitte l'AVA, dont il est trésorier, pour devenir coureur professionnel. Et sa première course, ça va être le championnat de France des 100 km/h, où il prend la 6e place. Okay. Après, il bat le record des 100 km derrière un entraîneur, cette fois-ci.
Derrière dernier, comment on appelait ça avant?
Comment?
Derrière dernier, peut-être.
Voilà, c'est ça. Hein. après, il essaie de se reconvertir comme entraîneur. Bon, ça marche pas. c'est pas son truc. Donc, il continue encore ses records. Après, il contribue à différents organes de presse sportive, comme la presse qui s'appelle La Bicyclette, Paris Vélo, le Journal des Sports. Et également, il va se lancer dans l'écriture. Vous voyez, comme quoi, le vélo et l'écriture, ça va ensemble. Il va créer deux ouvrages. Le premier s'appelle La tête et les jambes. C'est un traité qui considère un petit peu, qu'on va garder longtemps comme référence, comme guide d'entraînement. Mmh. Voilà. Et puis, un autre livre qui s'appelle Alphonse Marco. Voilà, un roman qui s'inspire du monde du sport et de la bicyclette. Et par la suite, il va rencontrer un monsieur qui s'appelle Adolphe Clément. Voilà, hein, c'est un industriel du cycle et de l'automobile, et il va en devenir directeur de la publicité. Hein, donc ça lui permet d'ouvrir de nouveaux cercles. Il va présider comme ça le salon de la bicyclette qui est organisé en France à la salle Wagram en 1894. Il va intégrer une commission sportive, l'Union Vélocipède Française. Il devient le président honorable. Donc il commence quand même à se faire de plus en plus connaître et à avoir autour de lui des réseaux. Voilà. Hein, et puis par la suite, il va prendre la direction du Vélodrome de l'Est. Hein, donc, où il y avait déjà à l'époque ses habitudes en tant que coureur. Il va prendre la direction du Vélodrome Mont-Désir à Bordeaux. Il devient administrateur du Parc des Princes, hein, qui est récemment vient d'être construit à l'époque, en 1897. Et sur cette piste, bah, il va organiser les premiers championnats du monde de cyclisme sur piste. Voilà. Donc voilà un petit peu notre monsieur Desgranges, hein, qui juste dans la foulée va quand même faire construire un vélodrome d'hiver,
Hein.
Alors, le premier, d'abord dans la Galerie des Machines, hein, qui est un vestige de l'exposition universelle de 1889. Bon, il va être un petit peu détruit, mais il va en construire un autre, comme celui qu'on connaît, hein, en 1910, bon, bien plus tard, le Veldiv dans le 15e arrondissement. Donc, on connaît l'issue tragique. Hein. Et après, par la suite, ben voilà, on va tomber sur ce fameux directeur de ce qu'on appelle l'auto-vélo. Hein. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il existe déjà un journal qui s'appelle Le Vélo. Alors, c'est un journal qui est tenu par un certain Pierre Giffard. Ok, bon. Mais qui est totalement en conflit avec, ben, on avait parlé tout à l'heure de Monsieur Clément, alors en conflit total, pour quelle raison? Alors c'est un peu compliqué, on est dans une période Dreyfusard, bon, les anti-Dreyfus, les pour-Dreyfus, bon. Et donc ils vont décider de faire concurrence, hein, en créant donc un nouveau journal qui s'appelle l'Auto-Vélo. Bon, le petit souci de l'auto-vélo, c'est que on a Monsieur Giffard qui va surtout porter plainte, estimant que auto-vélo, bah, on reprend le nom vélo dedans. Donc il va gagner son procès et donc ils vont être obligés de changer le nom auto-vélo, uniquement le nom l'auto. Voilà. Donc un journal de couleur jaune, ok, qu'ils vont lancer. Un petit peu de mal à démarrer au départ, voilà, donc très difficile à concurrencer le journal Le Vélo. Donc l'idée de se dire, mais il faudrait quand même lancer quelque chose d'exceptionnel pour aller récupérer le maximum de lecteurs. Et c'est là où un certain Géo Lefèvre, hein, va proposer cette idée folle à Monsieur Desgranges, je veux dire, et pourquoi on ne ferait pas un Tour de France à vélo. Voilà l'idée de départ. Général. Alors, ce qui est intéressant, c'est le caractère de Monsieur Desgranges. C'est un sacré personnage. Alors, Jacques Godet, vous m'en parliez tout à l'heure, hein, qui sera par la suite celui qui reprendra les rênes du Tour de France quand Henri Desgranges commencera un petit peu à décliner. Il dira de lui que c'était un homme rude dans son comportement, hein, rude dans ses expressions, rude envers lui-même plus encore qu'envers ses collaborateurs. Mais estimant qu'Henri Desgranges a considéré sa vie comme un combat permanent. Mais c'est vrai que Monsieur Desgranges, c'est du caractère. Monsieur Desgranges, il en fait comme il veut et à sa tête, et on le verra tout au long du Tour de France, je dirais, le caractère très trempé de Monsieur Desgranges, où personne n'ose d'ailleurs le contredire.
Mais il y a quand même, suivi quand même de quelques-uns de ses collaborateurs pour faire évoluer le Tour de France.
C'est plutôt ses collaborateurs qui l'ont suivi, il me semble. Mais, enfin, Monsieur Desgranges, je voulais, bon, par exemple, quelques petits exemples dans son journal, il exige de la part de ses collaborateurs une certaine neutralité politique. Hein. Il y a un petit exemple, il invite un jour un académicien qui s'appelle Maurice Barrès, lui demande de participer un petit peu à l'écriture et on doit surtout rester neutre dans la politique. Mais seulement, Desgranges, au moment où éclate la 14-18, lui, cette neutralité, il l'oublie. Hein, puisqu'il va écrire dans son journal « Les Prussiens sont des imbéciles malfaisants, il faut en finir, mes petits gars, les Prussiens sont des salauds, avec votre baïonnette quand elle sera sur leur poitrine, enfoncez-la sans pitié. » Donc vous voyez, pour une neutralité, voilà. Donc faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Hein, donc c'est une sorte de père Martinet au lyrisme exalté. Voilà comment on peut le définir.
Mais je crois comprendre, M. Leclerc, que, disons, l'origine du Tour de France est partie prenante d'un autre sport, l'automobile, qui avait le Tour de France automobile.
Alors,
on a repris certaines caractéristiques.
Voilà. On a pris certaines caractéristiques. On a pris notamment, un tracé. On a pris, on est à l'origine, on s'en sert un petit peu. À l'origine, bon, il faut voir qu'au départ, les étapes, parce qu'on parlera du premier Tour de France et de son tracé, il est quand même directement lié au chemin de fer. Hein. À l'époque, pour aller d'un endroit à un autre, que ce soit la foule ou les journalistes, on croit toujours qu'il y a des voitures qui suivent au départ. En 1900. 1903, faut pas trop se leurrer. Hein. Donc, c'est ce qui fait que parfois, des journalistes arrivent à une gare pour l'arrivée, et puis ils sont déjà arrivés. donc, c'est un peu ça. Alors oui, monsieur Desgranges, si vous voulez, pour finir un petit peu sur lui, c'est un monsieur qui, à la fois, change le règlement comme bon lui semble. Hein. Par exemple, comment vous dire... si, en 1929, par exemple, quand il y a un Belge qui s'appelle Maurice Deval, qui est pourtant malade, il prend la première place du classement général, il remporte le Tour, et il a été très soutenu par ses coéquipiers, compatriotes. Alors ça, à l'époque, M. Desgranges, hors de question d'être aidé par qui que ce soit. Alors il se dit, mais comment un maillot jaune aussi facile à dépouiller, hein, comment on a laissé gagner un coureur malade. Donc il dit, c'est pas question, donc on va faire à ce moment-là des équipes nationales. Voilà. Hein, et aller les petits Français, parce que j'ai oublié de vous dire, comme chauvinisme, on n'a pas plus. Alors on lui propose différentes équipes nationales, ok, dont le Luxembourg. Et d'ailleurs, non, pas le Luxembourg. Bah, pourquoi donc? Ah bah parce que on a un certain Nicolas France, ça fait deux fois qu'il gagne le Tour de France, manquerait plus qu'il gagne, donc on va pas prendre le Luxembourg. Donc c'est pas compliqué. Hein, et il va prendre par exemple une équipe nationale d'Espagne. Il y a qu'un joueur, il y a qu'un coureur. Alors on lui dit, mais comment voulez-vous que ce coureur il gagne, il est tout seul? Ah, ça fait une chance de plus pour nos Français.
Ben oui.
Quand on a des équipes belges, par exemple, qui sont exceptionnelles à l'époque en contre-la-montre, hein, bah, en plein milieu du Tour, il dit, bah, on va encore perdre, parce que nous, les Français, on n'est pas très bons en contre-la-montre. Bon, on n'a qu'à la supprimer, cette épreuve. Hein, on va supprimer les contre-la-montre. Alors, bien sûr, les organisateurs, ses collaborateurs lui disent, mais monsieur Desgranges, on ne peut pas changer comme ça en plein milieu. Bah, qu'est-ce qui m'en empêche? Donc, plus de contre-la-montre, les Belges sont outrés et quittent le Tour. Voilà. Donc, c'est Henri Desgranges. Voilà. Il fait comme bon lui semble. Et les changements sont inouïs.
Ah, c'est inouï. Franchement, inouï.
Alors, compliqué même.
Compliqué, exactement. Alors, ils avaient tous, apparemment, ils organisaient ça dans un restaurant parisien, là-bas, tous ces...
Oui, la petite cantine du coin, oui. Ouais, ouais. Bon, c'est souvent dans ces endroits-là que jaillissent les grandes idées.
Hein. Avec Marguerite. Hein.
Oui, alors un petit peu romancé, ça. J'ai imaginé une serveuse un petit peu godiche qui finit jamais ses phrases, mais bon. Parce qu'il faut aussi intégrer un petit peu d'humour. Même si on a quelque chose de sérieux, on a quand même une bande de personnes qui, au départ, passent des bons moments. Hein,
Alors, ce Tour de France, les premiers Tours de France, donc 1903, a expliqué un peu le parcours, parce que c'était pas comme maintenant. Hein. C'était un vrai Tour de France.
Bah c'est un pari inouï. Déjà, les Français, quand ils lancent ça dans le journal, la plupart des Français disent, mais les Tours de France, ils finiront jamais. Ça, c'est la première des choses. C'est des fous. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que au départ, il va dire, cette Tour de France, on va le faire disputer sur six étapes qui vont relier les grandes villes. Et la raison, vous le savez, le tracé qui relie, surtout par rapport au réseau ferroviaire. Alors, je vais vous les citer, les grandes villes. Ok, première étape, Paris-Lyon. Après vous avez Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Nantes, Nantes-Paris. Au total, 2500 km. Alors, la plus petite étape fait 270 km, la plus longue fait 470 km. Hein, donc, après, ce qui va être difficile, c'est de le lancer, ce Tour de France. Ça va être, mais alors, une pétaudière. Et quelque chose où on se dit, ben, est-ce qu'on continue véritablement à le faire? Alors déjà, pour en but de décourager ceux qui sont novices, on va quand même mettre un droit d'inscription. On veut pas les petits amateurs de rien du tout. Donc on met un droit d'inscription à l'époque à 20 francs par coureur. Bon, la course doit se dérouler sans entraîneur, sans équipe, hein, de manière à ce que, il n'y ait personne qui ouvre la route à un autre, hein, que les chances soient identiques. Alors, afin d'éviter les fortes chaleurs, puisqu'on a à l'époque, le Tour de France est prévu non pas au mois de juillet, mais le mois de juin, on verra pourquoi il était décalé, okay, les étapes se font de nuit, entre 23h et 5h du matin. Bon, bien sûr, à l'époque, imaginez les routes. Hein, Donc, les coureurs vont bénéficier d'un à trois jours de repos, après les étapes, en fonction du parcours. Alors, les arrivées n'auront pas lieu au centre-ville, hein, pour éviter les pavés et les rails de chemin de fer, qui sont dangereux pour les cyclistes. Okay. Le tracé est plat. Hein, on évite les massifs montagneux. Le danger, en fait, pour les cyclistes, il est peu présent dans les montées. Mais il est énormément dans les descentes, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, on a le pignon fixe. C'est-à-dire que dans les descentes, vous continuez d'être obligé de continuer à pédaler. Hein, donc, alors, il y aura une belle histoire là-dessus. On en reviendra certainement tout à l'heure sur le pignon fixe ou la roue libre. Hein, puisque M. Desgranges va être totalement hostile à mettre...
D'abord la roue libre.
Et après le dérailleur, il va falloir attendre Jacques Godet qui décide de le mettre. Hein, alors que le dérailleur est créé depuis 1908. Hein, quand il lance... un petit peu ce tour. Il y a de nombreux contrôleurs bénévoles qui sont placés tout au long du chemin afin de veiller à ce qu'il n'y a pas de tricherie. Les coureurs y reçoivent une bande de drap rouge à fixer sur le cadre de leur vélo qui comporte un numéro d'inscription, ainsi qu'on leur remet des torches pour la nuit. Un brassard jaune numéroté qui permet aux contrôleurs de les reconnaître plus facilement la nuit. D'accord. Le premier du classement est identifié à l'époque par un brassard vert. On n'est pas encore au maillot jaune qui interviendra.
Et c'est toute une histoire, le maillot jaune, d'ailleurs. C'est en plein Tour de France, à Grenoble, je pense, il y en a eu trois pour le même...
Alors, 1929, on n'a pas les chronomètres de l'époque, d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qui fait qu'à la première étape, on s'aperçoit que tout le monde arrive groupé, il y en a trois au même moment, on va dire, écoutez, on va mettre trois maillots jaunes. Donc, non, c'est le moment où le lendemain partiront trois maillots jaunes en même temps. Pour lancer ce Tour de France, on décide de mettre un prix de 3000 francs au gagnant de la course. C'est pas mal pour l'époque, par rapport à un salaire d'ouvrier, c'est pas non plus la panade.
C'est à peu près trois fois le salaire d'un ouvrier, je pense.
Oui, trois fois, un petit peu plus que trois fois. Mmh. Et puis on décide que chaque coureur qui restera en course recevra un défraiement quotidien à peu près de 2 francs. Ok. Autant dire que ça, c'est ridicule. on décide en fait de lancer ça, et puis quand il lance le journal, on est quand même à 65 000 exemplaires. C'est pas mal. Le problème, c'est que les candidats à l'épreuve se bousculent pas. C'est même un petit peu dramatique. Arrivent des individus plus ou moins désœuvrés. Alors, vous avez le charcutier du coin, vous avez le ferronnier d'un autre. On dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, M. Desgranges, on va peut-être redorer, leur nom en fonction de leur profession. Alors, il y a un tel qui s'appelle le champion des menuisiers, un tel qui s'appelle le terrible boucher de Sens, la ville. Mmh. Bon, ça n'en fait rien. Mais à l'époque, il faut savoir qu'avant le Tour de France, il y a déjà des grandes courses. Hein, notamment le Paris-Roubaix qui existe déjà. Il y a Paris-Brest-Paris. Il y a Bordeaux-Paris. Ouais. Et là, il va essayer d'aller chercher un petit peu les vedettes de ça. Et c'est là où il va réussir à faire venir dans l'inscription Maurice Garin, qui est de la région. On reviendra dessus, si vous voulez. Et ainsi que Hippolyte Couturier. Voilà, donc on connaît pas beaucoup Hippolyte Couturier, mais c'est un personnage, moi, qui me fascine. On l'appelait le terrible, l'Hercule de Commentry. Qui, lui, a gagné Paris-Roubaix, Bordeaux-Paris en 1903. Donc là, déjà, ça fait venir d'autres personnes. Ça commence à venir. On a l'inscription d'un Italien, Rudolfo Müller, qui d'ailleurs fera la reconnaissance du Tour avant le démarrage. Hein, on a également Léon Georget, qui à l'époque est spécialiste de la piste, qui s'intègre. On commence à voir un petit peu de monde intéressant. Mais une semaine avant le départ de la course, qui était prévu au mois de juin, ils sont 15 inscrits. Alors, notre monsieur Desgranges se dit panique à bord. Pour une course qui se prétend la plus grande au monde, on est un petit peu ridicule. Donc, il décide de décaler, il va le décaler cette fois-ci à partir du 1er juillet. D'accord, c'est pourquoi le Tour de France est lieu maintenant au mois de juillet. Mais alors, alors comment on fait? Bah, ils vont déjà réduire l'inscription à 10 francs. un peu plus de monde. Le défraiement de 2 francs passe à 5 francs par jour. D'accord. On a 5 francs supplémentaires qui seront attribués aux 50 premiers coureurs du classement. Ben voilà, comme c'est compliqué. À la condition qu'ils aient accompli chaque étape à une moyenne supérieure ou égale à 20 km/h. Voilà des granges qui commencent à faire à chaque fois des règles compliquées de partout, pour les organisateurs d'ailleurs. Hein. Et enfin, les primes, on lance des primes prévues lors de chaque étape, hein, décernées à des montants dégressifs selon l'ordre d'arrivée. Bon, au final, Monsieur Desgranges s'y attendait pas, mais c'est quand même un investissement de 40 000 francs en l'époque, hein, ce qui est énorme. Hein, on n'a pas de sponsor, hein, rien du tout hein, pour l'époque. Mais au final, bah, a lieu le départ du Tour de France, où ils sont prévus au départ, il y a 80 coureurs sont prévus pour prendre le départ de ce Tour de France, mais sur les 80 coureurs, bah, il n'y en a que 59 qui se présentent au départ. Alors, 48 Français, 4 Suisses, 4 Belges, 2 Allemands, 1 Italien. Alors, c'est sûr qu'à 48 Français sur 59, on a quand même plus de chances d'avoir un
Français gagnant.
Français gagnant. alors, il faut savoir qu'il y en a qui sont quand même sponsorisés à l'époque, hein, par des marques de bicyclettes notamment. On en a 21 qui sont sponsorisés notamment par la marque de bicyclette La Française, hein, pour l'époque. Qui est la plus représentée d'ailleurs avec 9 coureurs dont Maurice Garin, hein, le petit gars bien de chez nous, et il y en a 38 autres non sponsorisés qu'on va appeler les indépendants. Voilà, donc vous avez les professionnels, hein, les sponsorisés et les indépendants. Et ça, cette histoire d'indépendants ou professionnels va durer durant des années, souvent au détriment des indépendants.
Hein. Ben ouais, mais c'est tout, c'est pour avoir le maximum de coureurs au départ.
Oui, alors vous verrez qu'à un moment, quand...
Ouais, mais ils couraient pour rien.
Oui, ils couraient pour rien, parce que, bon, ils lancent une chose, c'est qu'on peut rater une étape, mais on peut, à ce moment-là, continuer la course, mais plus pour classement général. Alors, on a Hippolyte Ocuturier, dont je vous parlais, qui un jour a abandonné une étape, qui reprend le lendemain, et puis qui la gagne, l'étape. Il dit, bon, alors si maintenant, les gens qui concourent pas pour le classement général gagnent des étapes, ça n'a plus d'intérêt. Donc, il décide que les indépendants partent une heure après. Alors, donc, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs au couturier de gagner quand même l'étape avec une heure de décalage par rapport aux autres. Ce qui fera dire à M. Desgranges, vous voyez que ça n'a rien à voir.
Non, bien sûr.
Bon. Alors ce départ, c'est intéressant parce que on décide, comment dirais-je, de choisir. J'ai un petit trou sur le lieu de départ du Tour de France.
Ah, le premier Tour de France.
Oui, au réveil matin. Hein, donc, c'est à Montgeron, voilà.
C'est à Montgeron, c'est voilà. Alors à Montgeron.
Voilà, Montgeron. Alors, en fait, le départ n'a pas lieu à Montgeron. Ça, c'est une grosse erreur. Le rassemblement a lieu à Montgeron, devant, en effet, le café, le réveil matin. Seulement, Henri Desgranges arrive sur place, il s'aperçoit qu'à 100 mètres de là, il y a un virage trop dangereux. Donc il dit, bon, on va tout décaler et on va partir à 100 mètres plus loin pour faire ce départ, hein, pour éviter ça. En fait, mais 100 mètres plus loin, c'est plus Montgeron, c'est la commune voisine de Villeneuve-Saint-Georges. En fait, le vrai départ a lieu à Villeneuve-Saint-Georges, mais le lieu de rassemblement a bien lieu à Montgeron. Donc la première étape, il y a 37 des 59 qui vont finir la course, hein, qui finissent avec l'arrivée, avec, bon, pour le dernier, un retard de plus de 20 heures. Hein. Pour une étape. Hein. Alors que parfois, vous avez des retards à la fin du premier Tour de France. 21 finissent et le dernier finit à 65 heures du vainqueur de l'étape. Hein, plus de 2 jours.
Vainqueur du Tour de France.
Du Tour de France. Hein, plus de 2 jours. Bon, on n'a pas ça de nos jours, hein, c'est certain.
Alors, on revient quand même sur le vainqueur du premier Tour de France.
Maurice Garin.
Qui est mort à Lens. Hein,
qui est mort
certain,
à Lens.
Mais c'était un Italien d'origine.
Italien d'origine, donc un Italien francophone, la Vallée d'Aoste. Hein. Hein, donc il est mort en 57 à Lens. Hein, donc bon, cycliste italien naturalisé français en 1920. Hein. Donc c'est un gars qui a quitté son village à l'époque pour traverser la frontière, trouver du travail en France. Et il est ramoneur. Hein. Alors, c'est son petit surnom à l'époque.
Hein, ah ouais, petit ramoneur.
Hein, donc il fait ça dans plusieurs villes de France. Puis c'est à Maubeuge qu'il va découvrir le cyclisme hein, en 1892, où il s'y installe d'ailleurs. Et il achète son premier vélo à l'époque pour 405 francs. Alors c'est le double, comment dirais-je, de ce que gagne mensuellement l'ouvrier. Hein, donc deux payes pour un vélo, pas donné à l'époque. Et bon, les compétitions cyclistes n'intéressent pas trop Maurice Garin, mais il aime se promener à Maubeuge, hein, puisque les habitants là-bas, à toute allure, les habitants là-bas, ils l'appellent le fou. Voilà, donc il est toute allure dans les rues de Maubeuge, bah, c'est Maurice Garin qui passe. Et puis un jour, il va s'engager sur une course à Avesnes-sur-Helpe, hein. Connaît bien pour les gens de la région, mais il n'est pas autorisé à concourir parce que c'est réservé aux coureurs professionnels. Mais quand bien même, sans qu'on lui demande, il prend son vélo non inscrit et double tout le monde et il arrive vainqueur. Alors là, à ce moment-là, on refuse de lui donner le prix. Okay. Mais à ce moment-là, comment dirais-je, le public est tellement charmé par cet homme-là qu'ils font une collecte ensemble pour lui remettre la somme de 150 francs. Voilà. Alors après, bon, ce succès va le pousser à devenir professionnel. Hein. Il va devenir à partir de 1895 et puis il va remporter très vite deux Paris-Roubaix. Il s'impose à Paris-Brest-Paris, à Bordeaux-Paris. Voilà, ça c'est notre Maurice Garin. Après, moi, je suis pas un fan de Maurice Garin. Pas trop, même. Maurice Garin, c'est un roublard. Ouais. Ah, faut faire attention, ce mec-là, pour... Je vais quand même vous raconter la première Tour de France de 1903, qu'il gagne, d'ailleurs. Il y a quand même une petite anecdote grinçante. Il y a, à l'époque, un Français qui s'appelle Fernand Augereau. C'est un type dont on ne connaît pas vraiment, mais par contre, dont lui, il s'accroche, il prend la deuxième place, il dit « oh là là ». Et Maurice Garin s'en inquiète. Donc il va le voir et lui dit « dis donc, moi, tu me laisses gagner, je te donne un petit peu d'argent ». Et Augereau dit « bon, il n'y en a pas question ». Donc à ce moment-là, avec son pote, Lucien Potier, il lui dit « ben, fais-le tomber ». Donc Lucien Potier le fait tomber, non seulement il le fait tomber, mais en plus il écrase sa roue arrière, un peu qui devient du coup hors d'usage. Okay. Et après il dit à tous les joueurs, tous les coureurs, dit bah voilà, je vous file 100 francs pour que personne vienne à son aide. Hein. Malheureusement ça se sait. Okay. Et alors là, donc tout le monde, l'ambiance au sein du peloton est détestable. Parce que celui qui commence à parler avec Garin, il se dit « bah non, je vais te considérer comme étant des complices de la tricherie ». Cet incident est révélé par la presse. Okay. Et alors, craignant d'être agressé sur la route suite à ça, on va le maquiller. C'est-à-dire qu'on va enlever sa traditionnelle veste blanche, au profit d'un gilet de couleur noire. On va changer la couleur de sa bicyclette pour pas qu'il soit reconnu. Voilà. Donc, l'année du tour d'après, en 1904, bah, Maurice Garin a été suspendu pour tricherie. Suspendu pendant 2 ans de vélo. Alors, puis après, on le verra plus trop. Donc, je suis pas un grand fan de Maurice Garin, même s'il faut reconnaître sa performance, ses performances sur les courses.
Ouais. Donc, pour finir, Maurice Garin, donc en soi, hein, oui. Donc il est mort en 1957, hein, si mes souvenirs sont bons.
Oui, oui. Ben, on le voyait déambuler dans les rues de Lens, ouais. En disant, en criant à la population, où est le contrôle, où est le contrôle. Bon, il était sur sa fin d'âge, mais où est le contrôle.
Donc, il y a eu un vélodrome qui est à Lens. Oui. Et disons que qui a été construit en 1933.
Oui, c'est ça.
Et qui a été supprimé en 2012. Mais en 1957, le 19 février, ils l'ont appelé du nom du vélodrome Maurice Garin en son honneur, Lensois d'origine. Enfin, Lensois pas d'origine, mais qui a vécu en France et notamment à Lens.
Bah, normal pour une fois qu'on a des nationaux.
Et à noter que ce vélodrome Maurice Guérin, en 2001, la piste a été totalement réformée, enfin, nouvelle piste, pour faire peau neuve avant le centenaire de la victoire de son Tour de France.
Voilà.
Voilà. Donc l'histoire de Maurice Guérin, le petit ramoneur, et qui a effectué normalement le Tour de France à 25 km 679 km/h à cette époque-là.
Bon, c'est pas mal. Les vélos, ils font 25 kilos, hein, 25 à 30 kilos, hein, donc c'est quand même pas mal.
Et j'ai vu qu'il y a eu un total de primes, alors 6 075 francs à l'époque.
Oui.
Pour son premier Tour de France.
Oui, oui. Alors, bon, à l'époque, faut pas le cacher, c'est quand même le premier qui a tout. Hein.
Ah, oui.
Les autres, ils se partagent les miettes. Hein. Hein, mais parfois, c'est même pas rentable. Vous savez, je parle notamment des indépendants, on en voit certains à l'issue du Tour de France, de l'étape, pardon, faire des pirouettes pour amuser le public et faire la manche. Parce qu'il faut qu'ils se logent eux-mêmes, trouver un hôtel à leurs propres frais. Hein, donc... C'est un peu particulier.
Ouais. On va faire une petite page musicale, si tu veux, Lucas. On va écouter une histoire de vélo avec Bourville, la bicyclette. À bicyclette.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Pour moi, c'était pas Bourville, mais c'était Yves Montand.
C'est pas grave, Henri, c'est pas grave. Bon.
Voilà, donc de nouveau avec monsieur Benoît Leclerc, donc celui qui écrit Le Journaliste et le Coureur. Alors, justement, pourquoi également Le Journaliste et le Coureur? Parce qu'on parle beaucoup du journal.
Oui, alors le journaliste, c'est un petit peu tout ce qui est l'organisation, hein, au travers de ce qu'on a dit, Henri Desgranges, ses collaborateurs et autres. Et le coureur, en fait, on va voir deux histoires qui vont se croiser l'une dans l'autre. La première de l'organisation, mais aussi d'une famille et d'amis qui vont participer au Tour de France avec leur fils qui suit parfois une famille touchante, amusante, Parfois un peu de bras cassé.
Alors vous voilà. Êtes en, quand même, on parlait de, disons, votre quatrième livre, oui. Hein, quand même, L'Abri, hein, en 2021, Le Soldat de l'Empire en 2022, oui. Les Mystères dépendus de l'Oise en, également en 2022, donc vous avez écrit deux l'année dernière, mm-hmm. Et puis cette année, donc, Le Journaliste et le Coureur. Mm-hmm. Donc c'est quand même pas mal.
Oui.
Alors combien il vous faut de temps pour écrire un livre, justement?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est comme si on disait à quelqu'un combien il faut le temps pour faire un morceau. Bah, il y en a qui l'ont écrit dans la nuit, puis il y en a qui ont mis un an. Hein. Mmh. Donc, enfin, quand le thème est là, il faut les idées, il faut la trame, il faut que le lecteur soit à la fois apprenne, mais soit touché. Puis moi, je veux sortir la petite larme, comme un film, hein, je dirais. J'essaie de me mettre à la place de la caméra. Mmh. Voilà, donc il faut combien de temps, c'est variable, mais... Oh, 6 mois au moins.
Ah ouais, au moins. Hein,
au moins. Et puis il faut des recherches.
Ah, il faut la recherche, c'est certain.
Il s'agit, quand j'écris Le Soldat de l'Empire, il ne s'agit pas d'utiliser Place du Général de Gaulle.
Ah non, hein. c'est l'Empire. C'est voilà, Napoléon.
Voilà. Donc il faut utiliser les mots de l'époque, les expressions de l'époque. Donc il faut faire un gros travail de recherche. Voilà.
Bah, alors revenons à ce livre. Donc, ce livre est bourré d'anecdotes sur les Tours de France. Hein, l'origine, le premier en 1903, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment dès le troisième tour, avec les clous, voilà. Hein, les clous et les bagarres.
Voilà. Le tour 1904, le deuxième, est une catastrophe, à tel point qu'Henri Desgranges se demande s'il ne va pas tout arrêter. Alors, c'est des clous sur la route. En fait, on touche le chauvinisme de chaque région. Voilà, chacun il veut faire gagner son coureur régional, donc on essaie d'empêcher les autres. Donc c'est un peu difficile parce que par exemple, bon, Maurice Garin et Lucien Potier, vous vous souvenez de l'anecdote que je vous ai citée où vous avez voulu stopper Augereau, machin. Bah, l'année suivante, ils sont victime d'un événement incroyable. Il y a 4 personnes cagoulées à bord d'une, à l'époque, une torpedo, hein, une voiture torpedo, hein, qui les agresse. Ils tapent avec des barres, etc. Garin est blessé à la main. À Saint-Étienne, on a autre chose, c'est que on a également une troupe incroyable qui vont tabasser les poursuivants parce qu'ils ont leur petit leur petit préféré. Donc on a un Italien qui est carrément assommé. Il y a les organisateurs qui tirent en l'air avec des revolvers pour essayer de faire disperser la foule. Donc on a des incivilités inouïes. Donc il y en a plein qui se font aider par des engins motorisés. En fait, ce Tour de France se retrouve avec des clous, des tessons de bouteilles parsemés sur la plupart des étapes. Bon, il y en a qui doivent arrêter. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, ils sont démunis de chambre à air, tellement il y a de clous. Donc, c'est une catastrophe. Et surtout qu'à l'issue de ça, les 4 premiers sont disqualifiés pour tricherie. Mmh. Hein. Donc 29 sont soupçonnés de tricherie sur l'ensemble. Donc c'est une catastrophe, voilà. D'autant qu'on reproche à Monsieur Desgranges d'avoir un peu soutenu les meilleurs. Hein, Garin ou Couturier, comme vous disiez tout à l'heure, en disant bah oui, mais c'est normal. Ils roulaient sur des marques de bicyclettes La Française, qui est un des plus gros annonceurs de journal Loto.
Ouais, chauvinisme. Alors, il y a l'histoire aussi, disons que. La première fois que je vous ai téléphoné par rapport à ce livre, j'avais dit mon père, qui était passionné de cyclisme, bon, et qui n'a pas vécu les débuts du Tour de France, mais qui me parlait de donc des gars qui soudaient, descendaient le col ou quoi que ce soit pour souder leur fourche dans.
Il y a une belle anecdote. Une belle anecdote, ça s'appelle, c'est un cycliste qui s'appelle Christophe. Voilà, ça se passe en 1913. Et puis, il y a sa fourche qui casse. Voilà. Donc, à l'époque, interdiction de se faire aider par qui que ce soit. Hein. Donc, il va marcher pendant 14 km à pied, le vélo sur l'épaule, pour rejoindre un village. Voilà. Et là, il, après 2 heures de marche, eh ben, il va trouver une forge. Alors, il y a toujours un officiel qui le suit, hein, des fois, qui commencerait à tricher. Et donc, avec sa forge, il va réparer lui-même sa bicyclette pendant plus de 3 ans. Donc sous l'œil du commissaire.
Trois heures.
J'ai dit quoi ?
3 ans.
Ouais, ça ferait un peu long.
Trois heures.
Ça fait beaucoup de retard à l'arrivée. Voilà, et donc il finit l'étape avec 4 heures de retard. Bon, mais à l'issue, ben, il va être pénalisé. On estime même disqualifié. Il m'a demandé pourquoi. Ben, vous vous êtes fait aider. Ben, il dit pas du tout, c'est moi qui ai fait réparer la forge. Il me dit oui, mais le fils du gars qui était dans la forge, c'est lui qui a activé le soufflet. Bah, dit, comment voulez-vous que je fasse ? Je peux pas la voir. Et donc, bah non, c'est une aide. Voilà. Donc, ça rigole pas dans les aides extérieures. Voilà.
Ah ouais, c'est clair net. Alors, on va parler du Tour de France, disons, que remporté par le luxembourgeois François Faber. Oui. Donc, je crois que c'était en 1909, ce Tour de France-là.
Tout à fait. Alors, Faber, c'est un.
Luxembourgeois.
Luxembourgeois. Hein, donc, enfin. On dit, oui, luxembourgeois. En fait, il est son père qui est luxembourgeois et sa mère est lorraine. Voilà. Et puis, il ne fait aucune démarche. Donc, à un moment, la loi oblige à faire une démarche pour opter. D'accord. Et donc, comme il n'en fait pas, on ne sait pas s'il est... Donc, du coup, il n'est pas vraiment français, mais est-il pour autant luxembourgeois ? Ben, en fait, notre ami Faber, il va faire une déclaration explicite, il va répudier sa nationalité française. Voilà, hein, pour rester luxembourgeois, la question, pourquoi ? Bah, pour éviter les 2 ans de service militaire à l'époque qui auraient condamné sa carrière. Mmh. Hein, voilà. C'est pas plus compliqué. Donc, alors, Faber, 1909, c'est un type qui est exceptionnel. Voilà. Il est d'une facilité. Il remporte tout. Il remporte consécutivement l'étape, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Alors, à tel point qu'Henri Desgrange, mais il est en train de tuer le tour, ça avait pu être drôle. Donc, on va lui demander de dire, est-ce qu'on peut pas lui demander de ralentir? Alors, on va aller voir un petit peu son chef d'équipe. On va essayer de faire une petite négociation financière qui finit par accepter. Et donc Faber, bah, il va gagner haut la main ce Tour 1909, mais avec en ayant respecté la consigne de ralentir, puisqu'il laisse remporter à d'autres coureurs 7 des 8 étapes suivantes. Mais il gagne, hein, mais on lui a donné de l'argent pour dire « lève le pied mon gars, t'es trop fort ».
Alors, l'histoire de François Faber, c'est-à-dire qu'à la guerre 14-18, il était dans la Légion étrangère.
Bah oui, parce qu'il n'est pas français.
Hein, voilà. Donc, il a voulu participer à la Grande Guerre. Il est décédé ici, dans les collines d'Artois. L'un dit à Carency, l'autre dit en Mont-Saint-Éloi, c'est pas loin.
On sait pas trop. Je pense qu'on a d'ailleurs jamais retrouvé son corps. Mais une stèle a été d'ailleurs posée
au
Mont-Saint-Éloi. Alors il rentre à la Légion étrangère parce qu'il dit la France m'a fait ma fortune, il est normal que je la défende. Voilà. Donc ça, c'était Faber.
Donc, c'est Jacques Fallu, l'âme des petits-fils de François Faber, qui le 28 mars 2015, donc, a dévoilé la stèle de François Faber, Mont-Saint-Éloi, avec également Henri Dudinsky, qui était France, par rapport à l'année de la Pologne, il y a quelques années, que j'ai reçu, M. Dudinsky, qui a écrit un livre justement sur François Faber.
Ah, d'accord.
Et donc, c'était dévoilé donc, le 28 mars 2015. Et cette année-là, toujours en 2015, le 8 juillet, c'est Christian Pudhomme qui est venu se recueillir sur cette stèle avant l'étape, la cinquième étape qui est déroulée entre Arras et Amiens.
D'accord.
Ouais, donc, pour information, mais il a fallu que je recherche, que je sache histoire par rapport à la commune de Mont-Saint-Éloi, où la stèle, je la connaissais, parce que j'ai fait énormément de reportages sur Mont-Saint-Éloi, mais je savais pas que son petit-fils, M. Jacques Fallu, était venu la dévoiler. Et M. Fallu qui est décédé il y a 3 ans.
Voilà. Et au Luxembourg, il y a toujours des prix hein, qui s'appellent d'ailleurs le prix Faber, hein, qui existe toujours depuis longtemps.
Donc c'est deux coureurs, disons Maurice Guérin et François Faber, qui ont fait la région des Hauts-de-France, qui ont gagné ces deux Tours de France, le premier et puis celui, le sixième, en 1909. Alors il y a cet épisode aussi de la Grande Guerre, où le Tour de France a été annulé, hein, donc 1914-1918, 1914, on l'a quand même fait.
Oui.
Hein, par contre, on a repris en
19.
En 1919, d'accord, 19, voilà. Où là, les routes étaient...
Oh, bon, c'est une catastrophe, on se demande ce qu'on va faire, puisque les routes sont dans un état déplorable, on se demande comment on va pouvoir passer. Ça, on le fait quand même, et il faut savoir que durant la guerre, donc 14-18, c'est une hécatombe du peloton, hein, puisque le peloton est décimé. Sur 60 coureurs qui avaient participé au moins une fois au Tour de France... il y a 60 coureurs, pardon, qui ont participé au moins une fois au Tour de France, qui ont péri entre 14 et 18. Donc, dont 3 célèbres, qui ont d'ailleurs remporté un Tour de France. Le premier, on en a parlé, hein, c'est François Faber. Le second, c'est Octave Lapize, dit le Frisé, qui était vainqueur du Tour 1910, qui a été abattu à Verdun lors d'un combat aérien. Et enfin, c'était aussi Lucien Petit-Breton, qui était vainqueur des Tours 1907-1908, tombé sur la France. D'ailleurs, il avait même déclaré, juste avant de mourir, « Combien d'entre nous, qui étaient la gloire de notre sport, auront disparu ?» Il avait raison.
Ouais. Alors, également, on parlait quand même, parce qu'on évitait les massifs montagneux au début, et puis on a instauré une année pour monsieur Henri Desgranges, on m'a dit, il faut quand même faire ces massifs, et on va démarrer par le Galibier, je pense.
Voilà, Galibier. Alors bon, c'est quand même un truc incroyable, puisqu'ils sont toujours avec le pignon fixe, hein, avec des vélos à 25-30. Ça passe plutôt bien, voilà. C'est par contre, on a parmi les collaborateurs de monsieur Desgranges un monsieur qui s'appelle Alphonse Stennes, qui lui tient absolument, mais absolument, à passer par les Pyrénées. Alors, en 1911, il dit à monsieur Desgranges, dites donc, ce serait bien de mettre un petit peu de hauteur au Tour de France. Alors, Desgranges dit, mais vous voulez faire quoi? Il dit, moi je pense au Tourmalet.
Ouais.
Au Tourmalet, il y a 2000 mètres. Il dit, mais vous rigolez, c'est... Ok, il faut de l'exploit, mais pas de l'impossible. Et il dit, moi je pense que c'est possible. Il dit, écoutez, prenez votre voiture et puis partez en reconnaissance. Alors là, c'est une anecdote incroyable. Parce que notre monsieur Stennes, je l'appelais Alphonse, prend sa voiture, part là-bas, il va dans un petit chalet, et puis il dit, voilà, est-ce que je cherche un chauffeur pour m'amener? Alors il monte, il tombe dans une tempête de neige. Le gars dit, moi je veux pas plus loin. Il dit, moi je continue, il va à pied. Il va s'embourber, il va tomber dans une rivière glacée, il y a des montagnards qui vont le retrouver, le ramener, mettre des couvertures, mettre du feu, etc. Bref, c'est impossible à franchir, mais pourtant, comme il est tellement motivé à ce qu'on passe par les Pyrénées, il va envoyer un télégramme à M. Desgranges en disant « J'ai passé le Tourmalet, stop, parfaitement praticable, stop. Voilà. » Alors Desgranges dit « Allons-y. » Mon Dieu, ça va être une déferlante dans la presse, puisque tout le monde dit « Mais ils sont fous. » Et en effet... Je ne vous explique pas, cette année-là, les Pyrénées franchies, c'est une hécatombe. Notre monsieur Octave Lapize, qui avait gagné le Tour de France, quand il voit un organisateur, il dit, vous êtes des assassins. Hein, donc, il y en a qu'un qui met pas le pied par terre. Tous montent à pied. Sauf un, il s'appelle Garrigou. Il gagnera un Tour de France, d'ailleurs. Et c'est le seul à pas poser le pied à terre. Alors, Henri Desgranges est impressionné. Il va lui décerner une prime de 5 louis d'or, l'équivalent de 150 francs, pour cet exploit.
Ah, ben, c'est vrai que qu'à l'époque-là, il y avait des montagnards, c'est-à-dire des coureurs de col, quoi. Voilà,
oui,
quoi.
Mais ouais. On a parfois des cyclistes qui se plaignent d'avoir été agressés par des ours. Donc, faut imaginer ça à l'époque, avec leurs torches. N'oublions jamais que les épreuves sont fond de nuit aussi dans ces chemins impraticables. C'est ça qui fait aussi, je dirais, la grandeur de ce tour, c'est sa difficulté. Et c'est ce que voulait absolument Desgranges. Voilà.
Alors, il y a la fiction, et disons que sur ce livre, des personnages chez Zénoté, c'est... Alors, on a... Henriette, hein, Alphonse, Gaston, où oui. Notamment Gaston, il est passionné d'aviation, oui. Où c'est là que dans ce livre, on raconte un peu l'évolution de l'aviation. Et ouais. On va passer par Louis Blériot, naturellement, qui a franchi les trois la, la Manche.
Voilà, une évolution, ils suivent ça au quotidien. Donc ils suivent ça, ils vont dès qu'il y a... Bon, il y en a un qui est passionné surtout, hein, les autres, ils disent, oh, pas terrible avec son machin, là, ça, on verra jamais l'Angleterre. Bon, quelques années plus tard, on faisait quand même le vol jusqu'à Londres. Mais donc une évolution incroyable, auquel les gens n'y croient pas au départ. Hein, hein, donc oui, il y a toutes ces petites évolutions techniques, comme à l'époque, les disques. Hein, voilà, avec les disques à saphir, etc., ouais. Qui sont des grandes évolutions pour l'époque. Le disque à deux faces. Il y en a qui dit, regardez, j'ai acheté un disque à deux faces. Il dit, bon, à quoi ça sert? Bah, dit, deux fois plus d'écoute, bah, dit, ça change rien, puisque quand t'en changes un, t'en mets un autre, ça revient en même. Donc, on n'y croit pas trop, ces évolutions. Hein. C'est ça qui fait un petit peu le côté plaisant également de cette famille qui, non seulement, y participe autour, et après, vont créer un restaurant.
C'est pas un restaurant.
Dans un restaurant typique, hein, nous inventons des trucs. Hein, celui qui met la rustine autour de son corps aura le dessert gratuit. Il n'y a que le maire qui le fait, mais il est tout boudiné. Hein. Et donc, bon, il y a plein d'anecdotes comme ça. Alors, d'ailleurs, cette famille, enfin, c'est amis, famille, ouais. Amis, vivent dans un petit village du Hauts-de-France, ouais. Dans le livre, hein, Failly, ouais. F-A-Y, je pense ouais. Qu'on dit Failly et non ouais. Pas fait.
Dans la Somme.
Et dans la Somme, qui a la particularité d'avoir été totalement rasé en 14-18. Hein. Donc, par la suite, on a mis quelques baraquements en bois, mais on a reconstruit ce village, quelques centaines de mètres, une centaine de mètres plus loin, et on va vivre cet événement, j'irais. De cette famille qui va se retrouver relogée par la suite, hein, puisqu'ils sont du village de Fay.
La maison, elle est volée, voilà, toute
ouais,
l'histoire
oui,
également.
Femme, ouais, c'est volée bleue, je l'emmerde avec ses volées bleues.
Ça, c'était voulu par vous
Oui, oui, le petit clin d'œil, tous les jours, il fait ses volées bleues, c'est jamais le bleu qu'il faut. Bon, au final, en 1918, on retrouvera la mer, un bout de volée bleue au travers des ruines, quoi. Hein, donc, ouais.
Donc et notamment la maison par rapport au prix du vainqueur du Tour de France.
Oui.
Et voilà, c'est le prix d'une maison c'est par rapport prix, voilà, au vainqueur du Tour de France.
Il y avait le tour, il y a machin, donc il a pu pouvoir investir un petit peu. Bon, c'est pas énorme, puisque au départ, quand il revient des premières courses, sa femme, elle dit, c'est tout ce que t'as gagné. Donc c'est ce côté clin d'œil à la fois. Donc, le journaliste, bien sûr, l'organisation, mais aussi cette famille, le coureur et sa famille, tout ce qui suit.
Et puis avec Hippolyte qui voulait faire du vélo.
Voilà, alors Hippolyte, c'est-à-dire qu'ils appellent leur fils Hippolyte en hommage à Hippolyte au couturier. Bon, en fait, c'est un nul. Hein. Il arrive à un moment d'une course, son père, il dit, ah, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut, je te rappelle, hein, faut faire ci, faut faire ça. Il dit, bah, va chercher ton vélo. Il dit, bah, qu'il voulait pas ramener. Donc, il est nul, il est toujours dernier. À un moment, il fait une course dans le village, on dit, oh, bah, il prend de l'avance. Il dit, non, il y a un tour de retard. Bon, il est très mauvais, mais il s'accroche. Hein, donc,
ouais, c'est bourré d'anecdotes par rapport ouais. À cette. C'est... Alors, le tour dans la région, monsieur Leclerc, les étapes dans la région, principalement. Bah, je crois...
Au départ, on était surtout. Dans les premiers temps, on s'est passé surtout vers Lille, puisque n'oublions pas que les étapes sont des étapes directes. Ouais, hein, ouais, vraiment ouais. Directes. C'est Lille, c'est Paris, c'est Nantes, c'est Bordeaux, c'est Toulouse, c'est Marseille, c'est les plus grosses villes. Hein, voilà. Bon, par la suite, avec l'évolution du Tour, bien sûr, on va avoir d'autres accueils de villes, mais on s'aperçoit quand même que depuis quelques années, on passe plus à l'extérieur de nos frontières qu'à l'intérieur.
Oui, ah bah, de toute façon, voilà, c'est comme ça, on va toujours à l'étranger avec démarrer le Tour, et on fait des prologues et puis deux, trois étapes, dans la... et puis on arrive, voilà quoi. Et ils ont comme temps le Tour de France pour faire comme avant, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible, voilà quoi. On va éviter le centre de la France, voilà, c'est maintenant il faut visiter tout.
Oui, enfin bon, il y a d'autres raisons, hein. Donc. Avant, la Grande Boucle, c'était vraiment, vraiment à l'intérieur de la France. Hein. Mais il faut savoir qu'on a quand même eu pas mal de départs à l'extérieur. Hein, c'est-à-dire qu'on a eu 6 départs depuis les Pays-Bas, 4 de la Belgique, 4 en Allemagne. Bon, dernièrement, on a eu Copenhague. Non, c'est pas Copenhague. Si, c'est ça.
Oui, si, si.
Donc,
en Danemark.
Voilà. Hein, donc, on a des départs. Ça ne plaît pas toujours. On dit, bah, c'est plus le Tour de France. Bon, après, le Tour, ça peut être intérieur comme extérieur. C'est toujours un Tour. Alors, on dit oui, mais ça permet quand même de faire valoir à l'étranger l'intérêt du Tour de France. Les départs des frontières permettent de doper la popularité de la Grande Boucle dans les pays où elle passe. Moi, je dis, il faut quand même pas être dupe. Hein. Le Tour de France, ça valorise financièrement les départs à l'étranger. Il faut savoir que le départ ou les arrivées d'une étape du Tour de France, elles coûtent beaucoup plus cher aux villes étrangères qu'aux villes françaises. Hein, qui sont prêtes à mettre la main au portefeuille. Hein,
pour, ah ouais, voilà,
c'est financier.
C'est, et puis c'est médiatique.
Et c'est médiatique. C'est médiatique. Et financier.
Ah ouais, bien sûr. De toute façon, tout sport, c'est le sport business maintenant. Alors voilà, donc oui. C'est évolution. Le cyclisme en fait partie.
Voilà, c'est pourquoi les petites équipes n'ont quasiment aucune chance aujourd'hui de remporter un Tour de France. Mmh. Hein, c'est maintenant les monstres. Hein, quand on voit les équipes américaines arriver, à côté, on est un peu ridicule. Hein.
Alors, disons que l'histoire de Henri Delgrange se termine. Disons que c'est vrai qu'il commence à avoir les maladies en disons trois ans avant son décès, à partir de 1935, 36, voilà. 37, et puis disons qu'il décède en 1940. Et justement, c'est vous terminez votre livre en 1940.
Oui,
c'est voulu comme ça, bah, rapport à l'histoire de Henri Delgrange.
Voilà, voilà. Ouais. Hein, puis après, bon. C'est la 39-45, hein.
Ouais.
Monsieur Desgranges était persuadé pouvoir faire le tour de 1940. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc, je dirais que c'est un chapitre du Tour de France qui s'arrête avec Henri Desgranges. Hein. Lui, il transmet le relais à Jacques Godet.
Jacques Godet. Hein,
donc, en 1936. Alors qu'immédiatement, Jacques Godet en profite
pour mettre le derrière.
Pour mettre le derrière, immédiatement. Alors l'autre, il dit oui, mais bon, en fait, Desgranges, il craint que ça donne un nivellement des valeurs. Voilà. C'est la raison pour laquelle il veut pas le faire. Alors il dit bon, d'accord, mais alors j'apporte une petite chose. Ah bon, laquelle? Bah, les bonifications aux arrivées, on les supprime. Mais on les donne aux grimpeurs qui franchiront l'école en solitaire avec 4 minutes d'avance sur le suivant. De manière à pas que, vous voyez, il y avait peur que tout arrive en groupe, les arrivées massives en sprint et non plus l'effort individuel. Voilà la raison pour laquelle il a toujours refusé le dérailleur que Jacques Godet veut suivre quand même la technologie, la technique. Ouais. Hein, ça fait des années que tout le monde en a d'ailleurs dans les rues.
Ah bien sûr, tout à fait. Et également, disons que l'histoire du changement de pédalier par rapport à Opinion Libre, il n'y a pas une question de...
La roue libre.
La roue libre.
Oui, la roue libre pour lui au départ. Donc vous voyez déjà, en 1911, pour Desgranges, il n'y a pas question pour lui d'accepter les bicyclettes à roue libre sur le Tour de France. Alors il demande pourquoi, ça permettrait de soulager les coureurs, d'autant que maintenant ils font de la montagne, et ils s'y opposent pour deux raisons. D'abord, ils estiment que seuls en bénéficieront les coureurs qui sont sponsorisés, hein, donc ça fait pas une égalité. Et la deuxième chose, ils pensent que les coureurs, du coup, vont plus devoir pédaler en permanence. Donc la distance, elle devient un petit peu subjective et non pas effective. Voilà. Donc c'est pourquoi ils s'y opposent. Bon, cette intransigeance va vite tomber dessus, hein. Il va vite arrêter, puisqu'en 1912, bon, il accepte, mais encore, comme il est compliqué, sur certaines étapes. Voilà, uniquement.
Alors, justement, dans ce livre, on termine par René Desgranges, et disons que le Tour de France est une croisade, appel à un âge, un exemple, une leçon, c'est un enseignement. Alors, pour vous.
L'effort devient exploit dès lors qu'il est populaire. Okay. Donc, je pense que c'est toute personne qui fait du sport, j'irais à haut niveau, mais c'est un effort qui, à l'époque, reste quand même individuel. Hein. Aujourd'hui, c'est un effort collectif d'équipe. On n'est plus dans la même considération. Mais, en effet, c'est un surpassement de soi. Toute personne qui fait la compétition à un niveau va chercher le surpassement de soi-même, et c'est ça qui fait justement les héros. C'est peut-être justement ce qui manque aujourd'hui. Eh oui, vous savez, pendant, comment dirais-je, ce que veulent le franc aujourd'hui, ce que voudraient les Français, c'est que on se surpasse, que quelqu'un fasse une échappée, quitte à perdre une demi-heure ou une heure s'il s'est trompé. Ben, malheureusement, aujourd'hui, on est plutôt à chercher à maintenir sa place dans le top 10. Ah, je suis à ma 7e place. On voit des coureurs défendre leur 7e place. On ne voyait jamais ça avant. Non. Défendre une 7e place. Qu'est-ce que ça signifie?
C'est-à-dire qu'on a... On a perdu, moi, disons que j'ai connu quand même des grands noms de coureurs, et dont certains coureurs qui m'ont plu. Et l'histoire de Jean Canquis, c'est vrai, voilà, il y a l'histoire des Demers, c'est certain. Mais disons, des noms qui m'ont marqué, c'est luxembourgeois Charlie Gold.
Oui.
Frédérico Bamontès, l'aigle de Tolède, hein, voilà, c'est des coureurs, voilà quoi. Et sur ce livre et ces Tours de France, disons moi c'est pas mon époque, mais il y a certains noms qui m'ont, voilà, que j'ai retenu, Bartali, Gino Bartali, La Pébi, voilà, Antoine Amagne, c'est des noms que André Leduc, voilà, c'est des noms
ce sont des personnages, voilà. Je dirais qui pour moi me touche tout particulièrement parce que la technologie n'est pas au rendez-vous. Faut voir les conditions de course de l'époque. Ce qui fait justement, je dirais, si vous courez, je dirais, avec des super baskets, et puis moi que j'ai des Rangers avec un sac à dos et que je gagne devant vous, l'exploit est là, l'effort est là. Et ça, c'est, je trouve, des chevronnés de la route incroyables. Qui aurait pu le faire? Qui aurait pu le faire? Okay. Sans technologie, avec des bicyclettes de 30 kilos la nuit, c'est inouï. Et c'est ça qui fait la beauté du sport. Je pense que la beauté du sport, et les gens le reconnaîtront, c'est souvent dans la difficulté qu'on la salue.
Donc, dans la région, le cyclisme, c'est quand même... la région est une terre de cyclistes. On voit quand même les épreuves, disons que les 4 jours de Dunkerque, hein, par exemple. Oui. Le Grand Prix de Fourmies, le Grand Prix de Denain, Paris-Roubaix, le Grand Prix d'Isberg, le Grand Prix de Denain. Je veux dire, c'est une terre de cyclistes quand même.
On est des terres de vélo. Il faut y ajouter la Belgique également.
Ouais.
Je crois quand même on a encore plus terres de vélo en Belgique que nous le sommes.
Ah, c'est pas la même mentalité.
Voilà. C'est d'ailleurs assez étonnant d'ailleurs. Pourquoi on n'a pas plus, dans notre pays qui est quand même assez basé vélo, historiquement, ainsi que la Belgique, pourquoi on n'a pas de vainqueurs? Alors on disait, pourquoi on n'a plus de Français vainqueurs aujourd'hui?
C'est vrai. 1985.
alors j'ai envie de dire, c'est vrai que nous, on est toujours un peu chauvin aussi, hein. On aimait bien quand c'était Prost, en Formule 1, hein. Dès lors qu'il s'appelle je sais plus combien, on regarde plus trop. On aimait bien quand c'était Yannick Noah. Dès lors qu'il s'appelle je ne sais quoi, on dit il n'est pas très français celui-là, il m'intéresse moins. N'oubliez pas que le dernier vainqueur belge, c'est encore plus ancien. C'est Eddy Merckx, 76. Alors que c'est pas le nombre de
le cannibale.
Ou le cannibale. Pourtant, il y a Flèche Wallonne, il y a Liège-Bastogne-Liège, il y a énormément de courses. On pourrait dire pourquoi les Belges n'ont pas un successeur non plus. C'est vrai qu'il faut aujourd'hui...
Mais le cycliste, c'est expatrié.
Il s'est expatrié, il faut des capacités physiques et psychologiques, c'est certain. Puis il faut une grosse équipe autour de soi.
Je veux dire, on peut pas lutter contre certaines équipes, de Konak Quickstep, la Jumbo Visma et voilà quoi. Les Émirats Arabes, je veux dire, c'est trois structures qui sont voilà quoi. Moi je me dis quand même que il y en a qui disent que le vélo, c'est quand même pas sain. Et moi, je me le demande si vraiment c'est sain, indirectement. Maintenant, on peut... des petites manipulations de rien du tout fait qu'on avance 10 km/h supplémentaires, indirectement.
Bon, il y a l'évolution du vélo, hein. des entraînements, de la récupération. C'est toutes choses-là qui interviennent. C'est vrai qu'on a eu des années noires avec le dopage. Armstrong qui, lui, l'a carrément officialisé. Hein. Ouais, c'était une machine à doper. Incroyable. Moi, je pense qu'il y a des personnages en dehors de cela. Moi, Bernard Hinault, c'est pas un gars qui a jamais pris quoi que ce soit, et ça se voit, ça le sait.
C'est un blaireau.
Bon, puis il n'y a pas besoin de doper un breton. Hein.
Je
le sais bien, puisque la moitié de mon sang l'est, donc autant dire. Mais, on avait en effet... la modernité est intervenue, c'est intervenu, vous savez, dans le football, hein, avec la Juventus, hein, les histoires de drogue et compagnie de dopage. Hein. Maintenant, il y a aussi une chose, pourquoi on n'a plus de vainqueurs. Dans les années 70, 60 à 65% des coureurs étaient français. Aujourd'hui, sur 200, ils sont 30. Aujourd'hui, c'est très difficile et ça coûte très cher de faire une équipe qui tient la route, hein, d'autant qu'elle s'ouvre à tous les pays, hein, États-Unis, Australie, Pays de l'Est, bientôt l'Asie. Donc vous verrez. Un Fignon, hein, vous voyez, qui avait attaqué à l'époque l'Alpe d'Huez, y allait, tant pis s'il finissait 45e. Et c'est ce que veulent les Français aujourd'hui. Pour réussir un gros coup, il faut accepter la possibilité de l'échec. Et je pense que le public applaudira le Français qui jouera le jeu pour le tout, au risque de perdre 40 minutes. Ouais. Et c'est ça, je trouve, qui manque aujourd'hui, c'est qu'on a trop de contrats, trop d'argent pour celui qui n'est pas dans les premiers. Mais on reviendra un petit peu à l'effort, vous savez, l'histoire est cyclique.
Pour terminer, monsieur Claire, merci d'être venu, donc de Berck quand même, hein, sur la côte d'Opale, et le cinquième livre,
il sort en préparation. Oui, non, mais ça y est, madame Lamy, que vous avez dit tout à l'heure, avec son comité de lecture, l'ont déjà validé, donc il sortira en décembre, voilà, ça s'appelle Charles le Malchanceux. Pour faire très vite, c'est l'histoire du premier de l'histoire de la lignée des Sansons, les bourreaux, d'accord. Et le premier qui est devenu bourreau, alors, malgré lui, par malchance ou par cœur. Voilà, cœur envers une femme. Et donc c'est le tout premier des Sansons, c'est une histoire qui est fabuleuse, incroyable et vraie. Voilà.
Elle est vraie.
Voilà.
Pour revenir à ce que vous dites, là, les femmes, je veux dire, il y a un des coureurs qui s'est donné la mort par rapport.
Que si mes souvenirs sont bons, ça va être Henri Pélissier.
C'est ça.
Ah oui. Il n'y a pas que lui, mais.
Entre autres.
Sa femme, était veuve, donc il a mal pris. Il s'est pris avec une petite jeune, et puis qui a tiré des balles sur lui directement. Il y en a un autre qui s'est suicidé parce que. En faisant le Tour de France, il s'aperçoit en rentrant chez lui qu'elle faisait les cocus. On a plusieurs anecdotes qui sont dans le livre aussi.
Alors, comment se procurer ce livre, justement,
Claire? Peut-être déjà auprès de ma maison d'édition, Édition J'ai d'encre, mais vous le trouvez également en tapant sur Google, vous allez le trouver sur Amazon, vous allez le trouver dans différentes. Puis j'invite aussi les libraires à les commander. Libraire du Nord et d'ailleurs, mais on peut aller commander parce qu'un libraire, en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de livres qu'il peut commander pour son rayonnage. Que j'aurais tendance à dire, allez-y, le Tour de France, c'est rien de plus populaire, commandez-le dans vos librairies et puis voilà. J'allais me dire, je fais de la pub pour moi, oui.
Bien sûr, et de toute façon, je pense que ceux que vous avez créés avant, les trois autres, ils sont encore en vente, directement.
Ils sont encore en vente. Après, vous savez, il y a tellement de romans qui tombent chaque année, c'est qu'à un moment, on laisse toujours la place au dernier qui vient d'arriver, mais ils sont toujours en possibilité d'achat, bien sûr.
D'accord. Merci, monsieur Claire. Est-ce qu'on rajoute quelque chose pour la fin?
Les petits Français.
Les Français, oui. Pareil, il faut 1985, ça fait long, on a des bons, là. Grégoire, par exemple, Martinez, mais je veux dire, il faut qu'il grimpe dans d'autres structures pour évoluer.
Après, on a attendu combien d'années pour avoir gagné une Coupe du Monde au football?
Après, ça remet au goût du jour par rapport que l'Allemagne s'est fait laminer par le Japon et puis qu'elle a derrière ça, elle bat la France hier soir. Voilà.
C'est un match amical.
Oui, c'est un match amical.
À l'époque, on était des champions du monde du match amical.
Mais ça remet les choses en place aussi. dans les défaites, on apprend plus que dans les victoires, quelquefois.
Oui.
Et il ne faut pas avoir une Mbappé dépendance.
Voilà.
C'est dans tous les sports, hein. C'est canalette, hein. Voilà. Allez, merci, M. Leclerc.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Au revoir.